Tous les jeudis à 17h30, la librairie Caractère Social Club à Mont-de-Marsan explore pour vous l'actualité du livre. Rencontre avec les auteurs et les lecteurs, romans, essais, recueils de nouvelles ou de poèmes, sélectionnés et présentés par vos critiques, Aurore Pourny, Anthony Clément et Romain Baxer. Tous les jeudis à 17h30, mettez-vous à la page avec Radio MDM.
Radio MDM, tous les jeudis, sort de ses murs pour se ruer chez un commerçant à la fois heureux et essentiel. Bonjour Anthony Clément, on ne s'était pas revu depuis.
Bonjour, c'est vrai, on a basculé dans les commerces essentiels.
Ouais.
À la fois c'est très bien, on s'est retrouvé tellement sollicité pendant le confinement et après. Les lecteurs, les lectrices viennent en nombre, ont besoin de lecture, ont besoin de nous, ont besoin d'échanger, de partager. Voilà. Nous sommes un commerce essentiel désormais.
Ouais. On est passé de boutiques culturelles dans des galeries marchandes ouvertes il y a un an, avec des librairies fermées, à l'inverse finalement.
Exactement, ouais.
Il aura fallu un an.
C'est vrai qu'il y a eu des décisions avaient été prises qui nous semblaient pas toujours justes et emplies de sens. Là, pour le coup, c'est l'inverse. Après, on se réjouit pas.
Non.
Évidemment que d'autres commerçants, parce que dans les galeries marchandes, dans les espaces culturels,
il y a des emplois.
Sans citer, il y a aussi des libraires, il y a des personnes passionnées du livre qui ont leur rôle aussi.
Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces commerces essentiels, à commencer par le vôtre, dans une semaine et même un rendez-vous aujourd'hui placé sous le signe de la femme?
Oui, alors c'était pas non plus une volonté.
C'est la saison, comme dirait Doc Gynéco. Les infos,
oui. Oui, j'ai entendu. Il n'y avait pas non plus une volonté de surenchérir sur la tendance, sur la semaine et sur, évidemment, la journée du droit des femmes, donc du 8 mars. Nous sommes le 10, le 11, le 11, désormais.
Ouais.
Voilà, en tout cas, il s'avère que nous avions prévu des rendez-vous autour des femmes, non seulement à Caractère, avec l'exposition « Les femmes de chez moi », initiée par Margot Labarthe, mais également à la petite sœur de Caractère, donc à la Louve, à Saint-Sevé, avec une exposition sur les femmes agricultrices, en partenariat avec l'ADEAR, Parole de paysan, l'atout fermier. Voilà, donc c'est une exposition ludique sous forme de panneaux, de témoignages, de récits entre la France et le Pérou en suivant des figures de femmes agricultrices.
Les femmes de chez moi, c'est ici jusqu'à la mi-avril,
jusqu'au
16 avril, et jusqu'au 27 mars du côté de...
Et jusqu'au 27 mars à la Louve, Anthony, vous êtes vraiment...
Place du Tour du Sol à Saint-Sevé.
Voilà, place du Tour du Sol, 12 place du Tour du Sol à Saint-Sevé, librairie Café Social Club.
Voilà. Et alors on a les images, et côté mots, qu'est-ce que vous nous proposez en premier lieu aujourd'hui, cette semaine?
Oui, alors j'assume la première partie de cette chronique littéraire. La seconde partie sera assumée par notre magnifique stagiaire Morgane. Voilà, ce sera sa toute première antenne, il me semble. Oui, Morgane.
Ouais.
Oui, Morgane.
Elle en rougit déjà, je précise. Elle a déjà vomi deux fois aussi.
Je suis très content que Morgane assure la seconde partie. Ouais. Voilà, elle nous parlera des filles du vent. Alors moi, je vais vous parler d'un titre qui me tient à cœur, d'une autrice que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps, s'appelle L'enfant de la prochaine aurore. J'ai fait le décompte, c'est son 16e roman à Louise Erdrick, voilà, qui est de sang mêlé, comme on dit, amérindienne pour moitié. Ce texte-là, L'enfant de la prochaine aurore, et d'ailleurs ça se sent dans la lecture, a été écrit en deux temps. Elle a commencé en 2002. Puis l'a terminée en 2016 avec le contexte de l'élection de Trump. Voilà, elle s'est sentie, pour le coup, l'obligation de terminer ce texte et de le transmettre. On est sur un roman qui s'apparente à un journal intime, c'est-à-dire que Cédar Hawksonmaker, qui est la narratrice, adresse ce journal à son enfant qui va naître. Donc on est sur une parturiente qui va transmettre un petit peu le contexte de sa grossesse à son enfant plus tard. Et elle écrit ce journal intime qui est très très déroutant. On est proche d'une dimension de La Servante écarlate.
The Handmaid's Tale, pour celles et ceux qui sont pas trop bouquins, mais plus Netflix.
Exactement. On est dans une dimension aussi orwellienne avec la figure de Mother qui fait penser évidemment à Big Brother. Voilà, on est dans une dystopie, dans une dimension dictatoriale. Les États-Unis ont basculé dans une religion poussée à son paroxysme qui détient les clés et les outils du pouvoir. Donc du coup, on est dans cette dimension, comme je disais, orwellienne, aussi à la Margaret Atwood. On va suivre dans une première partie tout le début de la grossesse avec cet état qui s'effondre en parallèle. Pour les sages-femmes, j'invite évidemment à lire ce texte. J'en ai appris beaucoup sur la progression du fœtus mois par mois, puisqu'elle ne manque pas de détails là-dessus. C'est assez étonnant.
On peut les saluer, hein, quatrième manifestation depuis le mois de janvier pour la reconnaissance de leur métier.
C'est voilà. Aussi pour ça que j'en parle et je salue ton métier pour le coup, parce que je sais que pour l'avoir entendu sur les ondes, tu as suivi énormément les manifestations des sages-femmes. Bref, il n'empêche, au-delà de cette dimension aussi, donc de cette dystopie orwellienne aux accents de Margaret Atwood, une nouveauté, on va dire, dans les dystopies que j'ai pu lire, elle engage une forme de... On parle toujours de la théorie de l'évolution, de l'évolution de l'homme, de comment il est passé évidemment de son stade pratiquement animal jusqu'à aujourd'hui les high-tech, on va dire. Il n'empêche que le progrès a ses nuances, et là elle annonce une fin de l'évolution, c'est-à-dire que les femmes... en cette période qui est décrite par Louise Erdrich dans son roman, les femmes enfantent des versions régressées de fœtus et d'enfants qui ne sont pas tous viables. Donc elle annonce une forme comme si l'humanité était arrivée à son paroxysme, n'en avait pas fait grand état ou grande dignité, et biologiquement, elle régresse.
Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont fait de ses enfants à la fin de ses fœtus
Voilà, du coup, c'est pour ça que l'État va décider d'enfermer et d'encadrer les femmes enceintes, les parturientes, et de s'approprier, on va dire, les enfants, mettant évidemment, tuant très certainement...
Déclinaison de l'eugénisme pur et simple.
À demi-mot, exactement. C'est-à-dire que là, en plus, voilà. Puisque c'est vrai que le texte dont je n'ai pas donné la référence et qui est en filigrane dans cet ouvrage, c'est évidemment Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, puisqu'il y a une dimension d'encadrer les naissances, d'encadrer les femmes enceintes. Et donc, on ne sait pas à demi-mot ce qui se passe, si les femmes sont tués, si les fœtus qui ne sont pas originaux sont tués également. En tout cas, voilà, se met en place une rébellion justement pour faire passer les femmes au-delà des frontières qui sont fermées pour que justement elles puissent aller à la fin de leur grossesse et conserver évidemment les bébés. Normaux. Voilà, donc c'est toute cette dimension. Le récit, comme je le disais, écrit en deux temps à ses imperfections, c'est-à-dire que on sent bien qu'elle ne fait pas d'analyse sur les causes de cette régression, ni sur l'État, justement, qui devient une dictature aux États-Unis. Elle ne fait pas grand état de ça. Par contre, très vite, on est dans beaucoup de rebondissements, une écriture très vivifiante, toute cette dimension amérindienne qui est magnifique, avec le petit côté un peu ésotérique, évidemment, de la tradition amérindienne. On est dans la volonté de ne pas se laisser faire non plus, avec des femmes très fortes. Voilà, on va dire que les personnages masculins sont mis véritablement au second plan, dont père hein, de l'enfant à naître. Et on est vraiment focalisé sur Cédar, la narratrice, sur sa mère et sur une des femmes aussi encadrée, enfermée, qui s'appelle Tia, plus d'origine asiatique. On est sur un roman avec, comme je le disais, de nombreux rebondissements, c'est-à-dire très vivifiant, et en même temps, une perte de repères assez fréquente qui est liée au côté poétique et amérindien et symbolique de Louise Erdrich. Donc c'est une des lectures très très importantes de ce début d'année, un des romans pour moi les plus remarquables et remarqués. Voilà. Par contre, il a peut-être quelques imperfections dans la narration qui est liée à ces deux temps d'écriture et qui se ressent doublement, puisque une traduction n'apporte jamais véritablement, même si on va pas faire l'éloge des traducteurs aujourd'hui, mais une traduction, forcément, il y a un peu de perte. Mais en même temps, on est sur un roman très très important de ce début d'année et que l'on va défendre à la librairie Caractère.
J'apprécie votre objectivité. On rappelle le titre
et la maison d'édition.
Ah oui, la maison d'édition. Ouais. Bah, c'est parce que j'ai peu l'habitude de défendre des ouvrages chez Albin Michel. Hein, ah, donc bah, bon, c'est comme ça, hein, j'en suis désolé.
Non, mais je vais être un bip.
Mais en même temps, la collection Terre d'Amérique, voilà, avec une vraie politique éditoriale dessus, fait un très très beau boulot et de belles traductions. Donc pour le coup, Louise Erdrich s'appelle L'enfant de la prochaine aurore et c'est aux éditions Albin Michel dans la collection Terre d'Amérique. Voilà.
Merci Anthony Clément. Ça met la pression, Morgane, un peu, non ?
Oui.
Ouais. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve après avec toi, Morgane. Et moi, quand j'entends Morgane, ça me fait penser à un... ce prénom, ça me fait penser à un chanteur qu'on va retrouver tout de suite.
Je tombe du plume, mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là? Sur un cheval sauvage, ils s'en vont ridicules. Dehors y'a un orage, ils sont mouillés, c'est nul. Moi j'affûte mes gaules pour partir à la pêche. Musette sur l'épaule, saucisson, bière fraîche. Quand le soleil arrive, mon amour se réveille. Le cœur à la dérive, les yeux pleins de sommeil. Téléphone à sa mère, qui est sa meilleure amie. Paroles éphémères et tout petits soucis. J'aimerais bien entendre ce qu'elle dit de moi. C'est sûrement très tendre, enfin bon, j'entends pas. Moi je plante mon hameçon tout en haut d'une branche. Je tire sur le nylon, me ruine une phalange. Le jour avance un peu, mon amour se maquille. Un œil et puis les deux, c'est futile mais ça brille. Qui veut-elle séduire? Je suis même pas là. Je me tue à lui dire qu'elle est mieux sans tout ça. Que ses yeux sont plus clairs quand ils sont dans ma poche. Et que vouloir trop plaire, c'est le plaisir des moches. Je sors une truite d'au moins 120 kilos. J'ai pitié trop petite, je la rejette à l'eau. Il est midi passé, je reviens les mains vides. Trop de vent, pas assez, l'eau était trop humide. Je rentre chez moi, triste comme un menhir. Mais personne n'est là pour m'entendre mentir. Mon amour est parti, mais parti pour toujours. J'ai perdu mon amour, j'ai perdu ma vie. Si je peux, la gamine, s'emmêler dans les branches, à la pêche, à la ligne. J'emmènerai dimanche, si je veux, la gamine, s'emmêler dans les branches, à la pêche, à la ligne.
C'est la seconde partie de mon rendez-vous littéraire du jeudi. Seconde partie pour une première. Elle s'appelle Morgane, elle est ici, bonjour, rebonjour Morgane.
Bonjour.
Tu es ici, on va se dire tu, c'est bien tu. Tu es ici donc en stage à la librairie, Caractère Social Club Mont-de-Marsan. Ton rapport avec les métiers du livre, tu as quel âge déjà dans un premier temps ?
J'ai 24 ans.
D'accord.
Je suis là parce que je suis en année spéciale à l'IUT Bordeaux-Montaigne.
Ouais.
Et je souhaite être libraire. Donc j'ai fait ce choix parce que c'est un lieu qui me tenait à cœur.
Tu es natif d'où, de Mont-de-Marsan ?
Non, je suis née à Bayonne, mais je vis à près de Dax.
D'accord.
À Pouillon. Et donc, j'ai fait ce choix de la librairie Caractère parce que déjà, je fais un mémoire sur les librairies café, mais aussi parce que c'était un lieu qui me tenait à cœur. C'est un lieu vraiment humain On le voit pas, mais derrière une librairie, il y a avant tout des personnes. Mmh. Voilà, c'est aussi cette dimension-là de la librairie que j'aimais.
Ouais, la fourmilière humaine.
Oui.
dans laquelle tu t'inscris aussi, avec cet ouvrage. Alors, on évoquait cette semaine de lutte pour les droits des femmes, on ne va pas la réduire à la semaine ou la journée de la femme, avec cet ouvrage de Mathilde Faure qui s'appelle Fille du vent, fille au pluriel, pour lequel tu as eu un coup de cœur et que tu vas nous présenter.
Oui. Alors, donc Fille du vent, il a été publié le 9 mars 2021, donc au lendemain de la journée des droits des femmes. Il est paru chez Charleston, c'est une petite maison d'édition très récente, puisqu'elle a été créée en janvier 2013. Mmh. Elle se qualifie d'éditeur du féminin. Elle publie des livres très légers sur les femmes, donc des romans d'amour, des romans un peu à l'eau de rose, et en même temps des belles histoires de femmes, des romans féministes avec des femmes fortes, des héroïnes engagées. Quant à Mathilde Faure, déjà c'est un premier roman. Mathilde Faure a été éducatrice spécialisée à l'ASE, donc à l'aide sociale à l'enfance, pendant 3 ans à peu près. Donc elle a à cœur aussi de dépeindre le quotidien qu'elle a vécu dans ses textes. Ouais. Et là,
je comprends mieux l'histoire du coup.
Et donc elle a côtoyé des adolescentes abîmées, révoltées, joyeuses ou résignées.
Ouais.
Fille du vent, c'est un roman percutant qui ouvre nos yeux sur la réalité des foyers.
Mmh.
On y suit le quotidien de 3 jeunes adolescentes, donc il y a Lina, Assa et Céline, qui ont chacune leur propre histoire. Elles ont toutes connu la violence, la souffrance, et elles y répondent par contre chacune à leur manière. Assa se noie dans les livres et le travail. Céline se prostitue autant par besoin d'exister que par lassitude.
Mmh.
Et Lina est habitée par la violence, donc elle répond à la violence par la violence.
Ouais. Elles ne sont pas spécialement popines au départ, hein, je crois.
Non.
Ouais.
Et donc un jour, elles sont impulsées par une marche du mouvement Nous Toutes, à laquelle seulement Lina participe, et ne se sentant pas représentée, entendues, elles vont partir faire une fugue itinérante en France. Elles vont partir d'Argenteuil, elles vont aller jusqu'à Lille, puis Strasbourg, Lyon, Marseille, pour finir à Bordeaux. Et elles vont faire entendre leur propre voix à travers des slogans, des phrases chocs qui dénoncent leur quotidien et ce qu'elles vivent en tant que femmes et en tant que filles en foyer. Alors moi qui ai l'habitude de lire des livres avec des styles amples, des longues descriptions, là on est vraiment sur une écriture percutante, simple, mais...
brute.
Voilà, brute, ouais. Qui sonne comme un coup de poing.
C'est l'écriture à l'os, comme on dit.
Oui,
ouais.
C'est un style sans fioritures, sans ornements, mais qui est très efficace. Et cette écriture, elle montre aussi l'authenticité de l'autrice qui souhaite montrer une réalité et être au plus près du quotidien. D'ailleurs, le roman, il fonctionne aussi un peu comme un journal intime. On a tantôt affaire aux pensées de Lina, tantôt de Céline. Et donc, on a des dialogues forcément parfois très violents. Tout au long du roman, ces filles, elles sont guidées par des modèles. Donc on a des modèles du MLF, du Mouvement de Libération des Femmes. On a par exemple Simone de Beauvoir, on a Simone Veil. Ces grands noms, ils reviennent constamment dans le roman. Comme une chanson, elles viennent rythmer, ces femmes, elles viennent rythmer les idées de ces jeunes filles, elles viennent les inspirer, les impulser. D'ailleurs, je trouve que c'est une bonne entrée en matière pour découvrir le féminisme et ses grandes figures féministes. Donc, si je devais conseiller ce roman, je dirais que la tranche d'âge à partir de 15 ans, c'est pas mal. En plus, ces filles ont 16-17 ans. Je voulais aussi parler du titre du roman, Fille du vent. Le vent, c'est quelque chose qu'on sent, mais qu'on ne voit pas. Un peu comme ces filles qui sont invisibles, qui sont niées par la société, ignorées. On sait qu'elles sont là, mais on refuse de les entendre. Donc voilà, c'est un titre très ambivalent. D'ailleurs, il y a une phrase dans le roman qui dit « La violence, c'est le silence de celles et ceux qui pourraient parler, dont on attend qu'ils parlent, mais qui ne parlent pas. » Et en même temps, le vent, c'est le souffle de la liberté. Bon, c'est un peu cliché voilà, de dire ça. Mais voilà, le titre, il exprime aussi la volonté de ces filles de trouver la délivrance et la résilience grâce à leur mouvement, de se libérer un peu de leur souffrance. Donc ça fait beaucoup de bien d'entendre ces voix. Parce que je trouve que c'est rare. On a eu beaucoup de romans sur les violences faites aux femmes à la rentrée littéraire, en réaction au mouvement MeToo,
oui.
Impulsé un peu avec le roman de Vanessa Springora et son consentement. On a eu Chavirer, Lola Lafont, on a eu Fille de Camille Laurens. Et on a très peu, voire aucun roman sur les filles en foyer. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de découvrir aussi ce qu'elles vivent. Et aussi, j'aimerais faire un petit lien avec une BD. C'est Simone Veil ou La force d'une femme, parue en double édition chez Steenkies et Plon en mai 2020, où on y découvre le portrait de Simone Veil, la femme politique, hein. Sa vie et ses engagements. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se plonger dans son autobiographie Une vie, ou qui souhaiteraient compléter leur lecture, cette BD est très bien faite et vraiment très intéressante.
Et vient en écho donc à l'ouvrage de Mathilde Faure, Fille du vent, qui est aux éditions...
Charleston.
Aux éditions Charleston. Thèse, antithèse, synthèse, on a même le bonus en plus. Qu'est-ce que je peux dire de plus, justement, si ce n'est merci, c'était bien.
Oui.
Ouais. Ça s'est bien passé, même sans regarder ses fiches et tout. On se revoit quand, nous, du coup? Combien de temps tu restes là?
Jusqu'à samedi.
Samedi, retourne à Bordeaux.
Oui.
Ben écoute, merci pour ce rendez-vous, merci pour ces conseils, Morgane.
De rien.
Ouais. J'espère à très vite à Bordeaux ou ici. Voilà.
Oui, j'espère aussi.
Merci beaucoup.
L'actualité du livre sur MDM, c'est tous les jeudis à 17h30. Retrouvez votre sélection littéraire et le programme des animations à la librairie Caractère Social Club sur la page Facebook de Radio MDM.